Luc Lavoie, bonjour.
Bonjour, Bernard.
Bon, alors, on apprend, on vient d'entendre Valérie Leboeuf, là, qui l'a lu aux nouvelles, une preuve de vaccination qui sera disponible pour nous permettre de voyager ailleurs au Canada ou même pour voyager ailleurs aux États-Unis. On va pouvoir télécharger ça sur notre appareil mobile ou encore en version papier. Donc, c'est une preuve sous forme de lettre...
De code QR.
Lettre PDF. Ça va être sous forme d'une lettre PDF qu'on va pouvoir télécharger avec notre téléphone intelligent ou encore qu'on va pouvoir imprimer puis qui va nous permettre de voyager. Et elle est déjà disponible. Le communiqué, je l'ai sous les yeux, le communiqué du ministère de la Santé là, nous dit qu'à compter d'aujourd'hui, on peut télécharger donc cette preuve de vaccination ou se l'imprimer. Mais il y a une petite phrase un petit peu énigmatique dans le communiqué. Il est recommandé que le téléchargement de cette preuve soit réalisé le plus près possible du déplacement hors Québec.
Je comprends pas ce que ça veut dire.
Ben, ça veut dire que si tu pars, mettons, pour Cuba à Noël, télécharge pas tout de suite le document, attends le plus proche possible de ta date de départ.
Je sais pas pourquoi, mais enfin, voilà, on en prend bonne note.
Ben voilà, je sais pas pourquoi moi non plus, je ne fais que relayer l'information.
Mais voilà.
Voilà, c'est cela. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Colin Powell.
Il est décédé à l'âge de 84 ans.
Rappelle-nous.
Il est mort de la COVID-19, dit-on. Bien, et il était doublement vacciné. Il faut quand même savoir qu'il était atteint d'un cancer qui faisait que son système immunitaire était extrêmement faible. Donc, qui était Colin Powell? Mm. Powell a été le premier dirigeant américain, attends une minute, je pense plutôt...
Premier chef d'état-major
noir. Non, ça, je le savais, mais c'est parce que ce que j'essayais de dire, c'est que je l'ai rencontré 4-5 fois, OK?
Oui.
Et c'était un homme tellement impressionnant, Bernard, c'est dur à... Tu sais, quand on parle de quelqu'un qui a du charisme,
oui.
Lui, d'abord, il était un colosse. Il se tenait très, très droit. Il avait toutes les allures d'un soldat. Quand tu arrivais devant lui, tu savais que tu avais une force devant toi. Là. Et c'était un gentleman, un homme absolument affable et tout. Mais tu sentais chez lui une force extraordinaire.
On dirait une grande autorité morale, est-ce qu'on peut dire ça?
Grande autorité morale, mais plus que ça, une espèce de probité. Je sais pas, il dégage une intégrité. Quand tu le vois, là, tu te disais, lui, il peut pas mentir. Là. Lui, il peut pas mentir. Et c'est pourquoi sa carrière s'est terminée de façon plus triste. Souvenons-nous que, bon, il a commencé sa carrière au Vietnam, sa carrière militaire, et puis ensuite, il est retourné au Vietnam faire enquête sur la tragédie de My Lai. Tu te souviens sans doute de ça,
le
massacre
village.
Des civils.
Oui,
oui.
Village, oui.
Et ensuite, bon, il a gravi tous les échelons, puis il est devenu le premier chef d'état-major noir.
Mm-hmm.
Et ensuite, il est devenu le conseiller à la sécurité nationale, là, mieux connu comme le National Security Advisor de Ronald Reagan. Et c'est ensuite de ça qu'il a été nommé chef d'état-major, et il est demeuré sous Bill Clinton. Alors, il s'est lancé en politique. En fait, il n'a pas été un élu, il a été nommé au cabinet comme secrétaire d'État par George W. Bush, mais ça n'a jamais fonctionné entre les deux. Bush avait ses gars, là, Dick Cheney, puis tout ça, ces espèces d'individus qui aimaient la guerre.
Ouais.
Alors que Powell, qui était le militaire parmi les militaires, trouvait que ces aventures guerrières-là, ça commençait à être un peu beaucoup difficile et il avait développé ce qu'on appelait la doctrine Powell. La doctrine Powell, ça disait, quand on va se mêler d'un conflit à l'étranger, il faut y arriver avec une puissance de feu qui va nous permettre d'en sortir très rapidement. Deuxièmement, il faut savoir c'est quoi exactement l'objectif. Puis troisièmement, il faut avoir une date approximative de quand est-ce qu'on sort de là, même si on ne le rend pas public. Alors la doctrine Powell a été adopté, mais pas vraiment. Quand on regarde comment ils se sont conduits en Afghanistan et en Irak, ils n'en ont pas tenu compte tant que ça. Mais néanmoins, c'est Colin Powell qui a dirigé l'armée américaine quand ils sont allés libérer le Koweït en 1991. Et sa grande tristesse, la tristesse de sa famille et tout, c'est que quand George W. Bush et Dick Cheney avaient décidé qu'il fallait, puis Donald Rumsfeld, qu'il fallait aller faire la guerre à Saddam Hussein en 2003... Powell s'est objecté, Powell était contre, son ministère, qui était en fait le ministère des Affaires étrangères des États-Unis, était contre, ne croyait pas qu'il y avait des armes de destruction massive. Alors, à un moment donné, Bush et Cheney l'ont mis le dos au mur, et ont dit, notre secrétaire d'État, alors c'est toi qui vas t'adresser aux Nations Unies pour leur démontrer qu'il y a bel et bien des armes de destruction massive. Alors, il a fait son fameux témoignage, son discours aux Nations Unies. C'était très impressionnant.
Avec des espèces de photos, là? Hein,
oui, des photos, puis aussi une petite fiole là, qui montrait une sorte de poudre qui pouvait servir à faire sauter je sais pas quoi. Enfin, en bout de ligne, ça s'est avéré tout faux, ce qu'il a dit.
C'est ça.
Il s'en est excusé. Il a été manipulé. Il a dit, oui, mais en même temps, c'est l'ambivalence. Manipulé ou militaire jusqu'à l'os, c'est-à-dire qu'il obéit aux ordres. Un ou l'autre, votre choix. Mais lui,
il a toujours dit qu'il ne savait pas que les preuves qu'il présentait étaient fausses.
Oui, ça, il l'avait dit, sauf qu'en privé, par tout ce qui a été écrit depuis, puis les différents joueurs du gouvernement de Bush qui ont écrit des livres en parlent, c'est que sur la place publique, il a tenu le discours officiel, mais en privé, il s'est battu pour que cette aventure-là n'ait pas lieu. Et puis, bon, alors, il a perdu dans ça, il a perdu un peu de sa réputation. On le voyait même candidat
à
la Maison-Blanche.
Il a
décidé de ne pas y aller. Et, pardon, sous la présidence de Donald Trump, il est devenu un très, très, très acerbe, très, très direct. Un des pires opposants de Trump. Il a dit que c'était une honte.
Un des pires ou un des meilleurs.
Ouais, mais c'est un de ceux qui a frappé dessus le plus de la gang jusqu'à la fin de sa vie. Il n'a jamais voulu dire « j'ai honte d'avoir obéi ». Il est un militaire, il a obéi, mais une fois que l'affaire s'est avérée fausse, il l'a dit, il l'a répété. Et par la suite, il est devenu un des hommes qui obtenait les honoraires les plus élevés pour prononcer des discours dans diverses conférences un peu partout dans le monde. C'était 500 000 $ par conférence d'avoir M. Powell. Il appartenait à ce qu'il appelle le Washington Speaker Bureau, c'était une espèce de centre où quand tu cherches un orateur vedette pour le congrès international de je ne sais trop quoi, ben Colin Powell, c'était le plus cher. Il était à 500 000 $. Il est mort, 84 ans. Moi, j'ai ce souvenir, là, vraiment, la première fois que je l'ai vu, il était venu à Ottawa pour briefer le cabinet fédéral concernant la préparation qui se faisait dans le désert saoudien pour aller libérer le Koweït. Et quand j'étais arrivé face à face avec lui, Bernard, je te le dis, là, j'ai été comme intimidé. Tu sens vraiment, là, oh!
Ben voyons.
Oh boy!
Luc Lavoie intimidé.
Ouais, je t'avoue que c'est rare que ça m'arrive, mais ben, lui, là, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire.
Okay. Donc, une grande prestance.
Une très, très grande prestance.
Bon.
Et une présence. Quand tu es dans une pièce, tu vois personne d'autre. Il était comme ça.
OK. Ben écoute, qu'est-ce que tu veux? On transmet nos condoléances à la famille. Là. Pas sûr que ça va se rendre jusqu'à eux autres, mais enfin.
Ben non, ils sont en train de nous écouter, Bernard. Arrête.
Oui, non, OK, d'abord. Parlons un petit peu de la course aux armements qui s'accélère. Là, les Chinois qui auraient peut-être développé un missile hypersonique. C'est quoi ça, un missile hypersonique, d'abord, Luc?
Alors, j'avais une définition. La technologie hypersonique,
un objet volant à Mach 5.
Oui, c'est ça.
L'idée,
c'est que c'est un missile qui part, il traverse l'atmosphère, il se retrouve dans l'espace, voyage à Mach 5, c'est-à-dire 5 fois la vitesse du son, et redescend pour frapper sa cible. Et pendant son trajet, qui est presque impossible d'intercepter ou même de le voir sur les radars, pendant son trajet, tu peux changer la direction d'où il peut aller. Alors, c'est la dernière des folies dans la course aux armements. Les Russes se sont pétés les bretelles l'année passée parce qu'il y en avait un. Les Chinois, selon le Financial Times, bien que la Chine démente ça aujourd'hui, selon le Financial Times, ils ont lancé un missile hypersonique à capacité nucléaire. Et ça, c'est une autre des choses qui fait peur. C'est un missile qui peut transporter des engins nucléaires. Alors, il a fait le tour, selon ce que rapporte le Financial Times. Le missile a fait le tour de la Terre en orbite basse avant de redescendre vers sa cible, mais ils l'auraient raté. Bon.
Alors, mais ils auraient la technologie.
Ils auraient la technologie. Et c'est quelque chose parce que les États-Unis ne l'ont pas. OK? L'ambassadeur des États-Unis à Genève, là, à la conférence permanente sur le désarmement, l'a dit. Nous, on a renoncé parce qu'on pensait qu'on n'en avait pas besoin, fait que les recherches ont été retardées. Et là, ils ont décidé qu'ils se relançaient dans ça à cause du fait que la Chine puis la Russie en a. Alors, c'est comme ça que ça marche, la course aux armements. À diverses époques, c'est toujours la même chose. C'est de l'armement différent. Au début de la Première Guerre mondiale, c'était des cuirassés. Enfin, et c'est ça. Là, c'est la course aux armements qui se poursuit. Puis et c'est jamais bon signe, ça, Bernard.
Ben non. Puis les Américains qui avaient décidé de ne pas développer ce type d'objet ou de missiles hypersoniques, voyant que les Russes et les Chinois l'ont développé ou sont sur le point de le développer, ont décidé à leur tour de le développer parce que...
De relancer le développement.
C'est pour ça qu'on parle d'une course, encore une fois, qui est relancée, une course aux armements qui est relancée et qui ne s'est jamais vraiment arrêtée.
Oui, elle s'est arrêtée. Mais le développement de missiles, vraiment, s'était rendu au point mort il n'y a pas si longtemps. L'installation de nouveaux missiles balistiques s'était beaucoup retardée. Il y avait eu, à la fin ou au début des années 90, des accords sur le désarmement qui avaient été signés et qui avaient été respectés.
Pour certains types, bien sûr. C'est ça, les missiles intermédiaires. Les missiles balistiques de longue distance, ils n'ont jamais été. On a essayé d'en diminuer le nombre de part et d'autre.
Parce qu'on dit en diminuant le nombre, on diminue le risque. C'est ça qui est l'idée.
Voilà.
Alors, à l'heure actuelle, ça va coûter des milliers de milliards probablement, puis on ne sera pas là, j'espère, quand ça va être utilisé. J'espère que ce ne sera jamais utilisé.
Oui, on espère que les puissances vont, comme c'est arrivé par le passé, Gorbatchev, Reagan notamment, à un moment donné, trouver un moment pour s'asseoir et s'entendre pour limiter cette course aux armements parce qu'on va tous y perdre. Juste avant de se laisser, petit sondage léger qui démontre que M. Dubé, le ministre de la Santé, est le ministre le plus populaire avec Mme Guilbeault, la vice-première ministre.
Voilà. Et celui qui est dans le trouble, c'est Jean-François Roberge. Un grand, grand perdant, un différentiel négatif de moins 4, c'est-à-dire 34% des gens ont dit qu'il y avait une bonne opinion, 38% de mauvaise opinion. C'est intéressant. Et moi, je te quitterai pas avant de te dire, Bernard, que nos vaches...
Qu'est-ce qu'elles ont, nos vaches?
Elles nous font honneur.
Ah oui?
Le grand prix de la plus belle vache au monde a été décerné à Shakira. Une Québécoise.
Une vache québécoise.
Voilà, Shakira s'est imposée dans le prestigieux World Dairy Expo de Madison au Wisconsin face à ses 2306 concurrentes venues des quatre coins du monde.
Oui.
Grande championne suprême. On dit que c'est un peu comme un concours de mannequins, là, puis on les photographie de toutes les façons, puis on mesure.
Mais moi, j'ai déjà assisté à ça. Là. Mais non, mais des expositions agricoles, il y en a à travers le... Mais oui, mais quand tu as une exposition agricole...
T'as un choix, le choix de la plus belle vache.
T'as un concours, puis là, ils jugent la vache, ils regardent le dos, est-ce que le dos est bien droit. Après ça, ils regardent la force des membres.
Les pattes, les pieds.
Le pied de la vache, les quatre rayons et tout ça. Ben oui, puis c'est comme ça qu'ils décident à la fin, puis ces vaches-là vont servir par la suite pour de la reproduction.
Voilà. Moi, lors de l'exposition agricole de Rimouski, quand j'avais à peu près 10 ans, il y avait un concours comme ça, puis le lapin qui avait gagné, il vendait une pièce. J'avais une pièce.
C'est ton lapin qui a gagné?
Non, je l'ai acheté parce qu'il avait gagné. Là, je l'ai amené chez nous. Elle a été baptisée Artémise. Mes parents en sont devenus fous.
Oui.
Mais à un moment donné, au bout de 3 ans, d'avoir des petites crottes de lapin un peu partout, mes parents en pouvaient plus.
Oui.
Ils l'ont amené à une boucherie, je crois. Ils me l'ont jamais admis. Puis ils ont prétendu que non, c'est parce qu'il y avait une police qui était venue puis ils avaient trouvé l'animal mort. Je pense qu'ils l'ont donné en deux gars. Artémise! C'était la Shakira de son temps.
On a une pensée pour Artémis. OK. Bouge pas, va-t'en pas loin, parce qu'on va parler de fiscalité un petit peu. Là. Est-ce que c'est payant de retourner travailler quand tu sors de ta retraite? Alors, tu vas te joindre à nous dans un instant, Luc. OK?
D'accord.
Puis c'est un autre Luc qu'on va rejoindre, qui va venir, en fait, dans notre studio, qui va venir discuter avec nous. Luc Godbout, le fiscaliste.